20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 19 avril 1956. La star hollywoodienne Grace Kelly épouse le prince Rainier III dans la cathédrale de Monaco.
Ce jour-là, le soleil, qui jusque-là boudait, s'était enfin mis de la partie. C'est par un vrai soleil de mariage que la princesse Grace, au bras de son père, a fait son entrée dans la cathédrale où seulement 500 privilégiés avaient pu trouver place. Dehors, la joie populaire attendait le jeune couple. La vedette Grace Kelly jouait dans la jolie simplicité d'une épousée le dernier rôle de sa carrière de reine de l'écran.
Nous sommes le 19 avril 1956. Les regards du monde entier sont tournés vers un rocher souverain au bord de la Méditerranée. Devant 30 millions de téléspectateurs éblouis, la star hollywoodienne Grace Kelly vient de dire oui au prince le plus charmant et convoité d'Europe, Rainier III de Monaco. Jamais Monaco n'a connu telle effervescence. Dans les petites rues étroites de la principauté, les badauds se mêlent aux monégasques et s'écrasent pour ne rien rater du spectacle qui dépasse celui du conte de fées qui s'y joue. François Mitterrand, garde des Sceaux, représentant de la République française, Conrad Hilton, représentant le général Eisenhower, sont arrivés hier. La duchesse de Westminster, l'aga Khan, le roi Farouk, Aristote Onassis, Gene Kelly, Ava Gardner, Annie Cordy, Jean Cocteau sont là aussi, à l'hôtel de Paris ou dans une autre luxueuse résidence avec vue sur la mer. Et puis peut-être croiseront-ils également le réalisateur Alfred Hitchcock, le maître du suspense que Grace Kelly a choisi comme témoin. Car c'est lui qui en a fait sa muse il n'y a pas si longtemps. Ensemble, ils ont tourné 3 films. Le crime était presque parfait. Fenêtre sur cour et la main au collet. Alfred Hitchcock était à ses côtés déjà, d'ailleurs, quand Grace a rencontré Rainier, ce prince célibataire qui possède 13 voitures, 3 yachts et 2 eaux. C'était il n'y a même pas un an, pendant le Festival de Cannes. Une rencontre au Palais, arrangée par Pierre Galante, reporter à Paris Match. Ce jour-là, Rainier aura l'audace d'avoir une heure de retard, ce que la jeune star de 26 ans lui aura bien vite pardonné. Aujourd'hui donc, 19 avril 1956, Monaco est en fête. 1800 journalistes couvrent l'événement. La mariée pourtant a l'air grave. Est-ce parce qu'elle réalise qu'elle tourne déjà si jeune une page de son existence ? Son époux est catégorique. Pour endosser son rôle de princesse, elle doit renoncer à tous les autres. À 27 ans, c'en est donc terminé de cette carrière que tous voyaient tutoyer les étoiles. Pourtant, le prince Rainier a proposé à la MGR, Metro-Goldwyn-Mayer, la société de production hollywoodienne, la possibilité de tourner un film sur les coulisses du mariage. Grace dira à une amie « Il ne veut pas que je tourne de film » et se mêle d'en faire un dont je suis la vedette. En retour, la MGM offrira la robe de la mariée. Elle est sublimement belle, Grace, dans sa tenue immaculée de style Renaissance, offerte par les studios américains, ornée d'une coiffe de dentelle rebrodée de semences de perles. Elle vient de dire adieu à une vie et oui à une autre. Nous l'appellerons désormais Grace de Monaco. Retour ce soir sur un règne aux coulisses parfois ombrageux, un conte de fées pas toujours rose qui, par un jour de septembre 1982, se drapera à jamais de tragédie. Dans un instant, Elisabeth Gousseland, auteure du livre Grace de Monaco, La glace et le feu, sera à mes côtés. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, Jour J vous transporte en 1956, le 26 avril précisément, quand Monaco succombe par un jour de ciel bleu à la beauté grave et hollywoodienne de Grace Kelly, qui épouse le prince Rainier III. C'est 2 semaines avant que la future princesse est arrivée en bateau depuis les États-Unis après 7 jours de traversée sur le paquebot. Margaret et John, les parents de Grace Kelly, sa sœur Peggy, quelques amis et déjà des photographes triés sur le volet. La foule monégasque accueille Grace avec enthousiasme au son des canons. Bonsoir.
Bonsoir Elisabeth Gousseland.
Bonsoir Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous aussi on fait péter les canons à votre arrivée. Vous êtes journaliste et écrivain, vous êtes autrice du livre Grâce de Monaco, la glace et le feu aux éditions Grasset. Alors elle est accueillie, Grace Kelly, elle est accueillie avec les honneurs, hein, évidemment, qui vont avec tout son avenir, son futur, le trône donc de Monaco. Mais auparavant, qui était cette jeune femme? D'où venait-elle?
Alors, elle est la fille d'un très riche maçon, entre guillemets, de Philadelphie. En fait, le père est millionnaire. C'est une lignée de millionnaires, très WASP, très distingués. Il a beaucoup d'enfants, il a trois filles et un garçon. Et ils vivent à Philadelphie dans une splendide hacienda blanche. Ils mènent un train de vie excessivement aristocratique. Et il, évidemment qu'il caresse pour sa fille, qui est la seconde, hein, l'aînée, mais pas pour Grace, il caresse des ambitions tout à fait conventionnelles. Mmh. En tout cas, tout sauf le théâtre.
Donc voilà, pas de théâtre, pas de Hollywood, pas de milieu artistique. Quoi,
hein, surtout pas.
Ouais. Elle n'est pas du tout élevée. Alors là-dedans, donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle a cette fibre? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
Alors, bon, ben, c'est pas une élève brillante, ouais. Hein, mais on lui en veut pas. Par contre, c'est une excellente danseuse.
Elle rêvait... souvent, comme tous les artistes d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'ils sont brillants dans d'autres domaines.
Absolument. Ouais. Elle rêvait, elle, d'être danseuse. Elle aurait pu, elle se pliait à la discipline de la barre et de la danse classique. Mais en vérité, il faut bien faire des études quand même dans ces années-là. Elle fait des études tout à fait convenables, pas époustouflantes. Et comme on ne trouve pas d'université où l'inscrire, en fait, eh bien, on se dit, il y a une excellente école d'art dramatique à New York. Elle va tenter sa chance. C'est un peu le plan B ou C d'aujourd'hui, en fait.
Oui. C'est un peu la voie de garage dans cette famille aristocratique. Et il se trouve que, en fait, Grace ou Grace, comme vous l'appelez, réussit.
Elle réussit, elle n'est pas excellente. Mais vous savez, et c'est ce qui va la suivre toute sa vie et c'est ce qui fait qu'elle est fascinante, elle est droite, ouais. Elle est disciplinée, elle est sérieuse et elle s'implique à fond dans ce qu'elle fait.
Elle a commencé comment en fait? Elle a fait des pubs, c'est ça?
Mais oui, elle a fait énormément de publicité. C'est-à-dire qu'à son cours d'art dramatique, on ne la trouvait pas extraordinaire, mais on la trouvait excessivement jolie.
Ouais, parce qu'elle était d'une beauté fracassante.
Elle était d'une beauté délicate, surannée. C'était une porcelaine aux yeux bleus avec un port de tête, une blondeur un peu comme la vôtre.
Merci.
Ce chignon banane déjà qu'elle savait enrouler sur sa tête. Un look déjà Dior, c'est-à-dire qu'elle s'habillait chez Dior.
Très chic.
À 20 ans, les talons bobines. Enfin, le petit rang de perles, c'est son invention.
Ouais.
Elle arrive avec ce petit rang de perles et tout le monde la trouve scintillante. Alors, évidemment, on l'engage dans des pubs et on l'engage dans quelque chose qui commence seulement à l'époque aux États-Unis et ensuite en Europe, qui sont les séries télé. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et son visage ravissant va apparaître de plus en plus dans les foyers de télévision.
Est-ce que son père, à un moment donné, justement, se dit « ça y est, ma fille a trouvé sa voie » ou est-ce que ça restera encore toujours un sujet entre eux?
En fait, moi, c'est ce que j'ai écrit dans ma biographie, c'était l'angle de mon livre, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai problème, un vrai complexe d'Édipe, absolument pas réglé, et Grace est celle qu'il n'aime pas assez. La favorite, c'est Peggy, c'est-à-dire que le jour où elle aura un Oscar, il faut le décrocher, l'Oscar à Hollywood, pour une fille de la province. Le père dit au journaliste qu'il interview à Philadelphie, « Oui, certes, Grace a eu un Oscar, mais ça m'a un petit peu étonnée parce que la plus brillante, c'est Peggy ».
Quelle cruauté.
Quelle cruauté.
Ouais, c'est
dit qu'il n'a aucune ambition, qui est femme au foyer, c'est très bien. Et c'est tout à fait...
Qui est plus conventionnel et qui correspond certainement plus, qui rassure plus le père en tout cas qu'il était.
Et puis il la trouve brillante, et tandis que Grace est un petit peu le vilain petit canard, aussi paradoxal que ça paraisse.
Mais alors ce vilain petit canard qui finit, vous le disiez, par avoir un Oscar, elle a rencontré Hitchcock et c'est Hitchcock en fait qui l'a fait exploser.
Ah bah oui, le mentor, le Pygmalion, celui, l'espèce de panda un peu rondouillard, comme ça, qui décroche les plus beaux rôles aux plus belles filles de la planète, parce que y a pas qu'elle, hein, y a aussi Ingrid Bergman, elles seront nombreuses à jouer. Mais il trouvera toujours que c'est sa muse, sa favorite, l'inégalable, l'inaccessible, même quand il fera tourner Kim Novak, qui est très belle aussi, qui est plantureuse, il lui demandera d'imiter Grace Kelly. Ce sera un fardeau pour toutes celles qui passeront après Grace.
Le 22 juin 1982, Grace Kelly accorde une interview à la ABC, ce qui restera d'ailleurs sa dernière interview, car elle a disparu tragiquement 2 mois après. Voici ce qu'elle disait de son métier d'artiste.
Lorsque j'étais actrice, j'aimais bien sûr jouer. être au théâtre et au cinéma. Mais je n'aimais pas particulièrement être une star de cinéma. Il y a une grande différence. J'adorais mon métier. Ce que je n'aimais pas, c'était les apparitions publiques propres aux stars de cinéma.
Alors, Elisabeth Gousselin, elle aimait la tranquillité quand même, Grâce de Monaco. Elle ne l'a pas trouvée à Monaco.
Il y a un petit peu de ça, mais il y a surtout ce moule dont nous avons parlé toutes les deux, ce moule, cette éducation extrêmement stricte des Kelly, extrêmement disciplinaire, où finalement, une fille de bonne famille ne doit pas faire de cinéma. Donc elle en fait, elle brille, elle a un parcours fulgurant, mais il y a toujours l'image du père, le surmoi du père, qui lui dit « tu n'es pas à ta place » dans ces soirées dévergondées, avec l'alcool, avec la drogue. Hollywood, c'est ça qui la terrifie. C'est l'espèce de jeune fille de bonne famille qui sort du pensionnat et qui se retrouve au bord de la villa de Cary Grant à être obligée de faire des choses que son père réprouverait. Donc en fait, on est toujours dans ce surmoi paternel, cet interdit familial, qui fait qu'elle ne s'épanouit pas à Hollywood. Ça, c'est l'une des deux Grace. Parce qu'en fait, il y a Grace de Monaco et Grace Kelly, comme vous le disiez. Mais Grace, en même temps, elle a une vie cachée et un nombre d'amants incalculable.
Mais oui, mais c'était une tombeuse.
Mais c'était une croqueuse d'hommes et d'hommes très âgés. C'est-à-dire qu'elle inaugure ce truc qui colle très bien avec le complexe d'Édith, c'est celle qui cherche papa. Et donc, sa première conquête, c'est quand même un petit peu Humphrey Bogart, Cary Grant, Clark Gable. Tous les hommes très beaux, mais qui ont 25 ans de plus qu'elle et qui passent à sa portée, elle les séduit. En plus, elle se fait pas séduire. Elle n'est pas dans la tradition. Elle saute un petit peu au cou des hommes.
Voilà, et elle y va. Voilà. En tout cas, Grace Kelly est un jour devenue Grace de Monaco. On en parle dans un instant. On va parler de sa rencontre avec le prince Rainier. A tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, Jour J vous parle d'amour, car l'histoire entre Grace Kelly et le prince Rainier III de Monaco a tout pour faire rêver. Ils sont beaux, ils sont riches et ils sont aimés. Elisabeth Gousselin, vous êtes notre invitée. Merci d'être avec nous jusqu'à 21h. Vous avez écrit le livre Grâce de Monaco, La glace et le feu aux éditions Grasset. C'est ce que vous venez de nous dire. Hein. Une femme en même temps très corsetée qui sautait aussi lorsqu'elle était à Hollywood au cou des hommes bien souvent plus âgés. Et puis une liste d'amants quand même qui nous fait toutes rêver. Hein. Ah on ne peut pas dire le contraire.
Le chat d'Iran aussi.
Le chat d'Iran aussi, voilà. Allez, et un de plus. Alors le seul détail, puisque je parle d'un conte de fées et pas des moindres, ce seul détail qui ne colle pas avec l'histoire du conte de fées, c'est qu'en fait, ils ont vécu une rencontre totalement arrangée. Ils ne se sont pas rencontrés par hasard avec Rainier.
Mais non, et en plus, ce sont les Français, c'est Paris Match qui est à l'origine de tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un célèbre photographe qui connaissait Rainier, qui connaissait Grace, et qui l'a approchée sur la Côte d'Azur lorsqu'elle était au Festival de Cannes, et qui lui a dit « Est-ce que ça te dirait de rencontrer un prince ?» Et cette petite Grace qui a maintenant 25-26 ans et qui est toujours pas casée aux grandes dames de son père, peut-être trouvera-t-elle là le moyen enfin de plaire à papa.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête du photographe de Paris Match ? Il y a l'idée à un moment donné de faire un papier glamour et d'attirer le lecteur. Il y a peut-être l'idée d'être à l'origine d'une histoire d'amour. On sait que le prince Rainier, c'est un prince célibataire hyper convoité. Enfin, donc, il y a quoi ?
Il y a exactement tout ce que vous dites, Flavie, c'est-à-dire vendre du papier glacé, être à l'origine d'une cover, d'une histoire qui va passionner la France mais le monde entier puisqu'elle est américaine.
Oui, tout à fait.
Donc on est là dans quelque chose de névragique qui est presque comparable à l'affaire Meghan. Vraiment, là on cristallise les passions des midinettes. Et je pense que c'est vraiment un deal.
Voilà, mais est-ce qu'elle sait que c'est un deal ?
Oui, elle est très intelligente.
Voilà, donc quelque part, elle sait aussi qu'il y a potentiellement une chance pour que ça marche, quoi. Elle va peut-être emballer le prince.
Elle va peut-être emballer le prince, d'autant plus que les conseillers du prince, eux, lui avaient proposé le modèle Marilyn Monroe, mais qui aurait fait beaucoup trop voyant.
Racontez-nous ça, c'est intéressant quand même.
C'est-à-dire qu'on cherche à le caser, en effet, Rainier. Ouais. Il est depuis des années l'amant très épisodique d'une actrice pas très connue qui s'appelle Gisèle Pascal, mais auquel il est très attaché. Et on trouve que pour faire rayonner, il s'agit de faire rayonner Monaco. Mmh. Comment faire rayonner Monaco avec un Rainier qui est certes tout à fait bien dans les affaires de l'État, mais qui n'est pas bankable, qui n'est pas glamour. Vous savez, il avait des petites lunettes sécu à l'époque. Il n'était pas laid, mais il n'était pas non plus vraiment très people. Alors, il fallait lui coller. On lui a proposé Ava Gardner. On lui a proposé toutes les stars hollywoodiennes. Il était assez prudent pour se dire, non, je n'ai pas l'étoffe.
Mais alors, une Marilyn ?
Mais Marilyn, ça n'aurait pas marché du tout. D'accord. Marilyn se serait enfuie au premier protocole. Non, Grace était vraiment dans le moule, puisque c'est ce qu'on a raconté au début, cette enfance disciplinaire, cet esprit aristocratique, cette distinction. Vous savez qu'on disait de Grace, c'est la seule star, c'est Gary Grant qui disait ça, c'est la seule star qui est née du bon côté de Central Park.
Ouais, c'est ça.
Qu'elles étaient toutes assez vulgaires, mais charmantes, dans lesquelles elle alliait la distinction, l'élégance, et les bonnes manières, et les codes de la haute société. Elle a tourné dans High Society.
Alors, donc, on est quand même donc en marge du Festival de Cannes. Elle sait que cette rencontre est arrangée, elle est
absolument
programmée. Le prince régnait quand même, alors qu'il avait l'occasion à un moment donné de rencontrer peut-être la femme de sa vie, il a l'audace d'avoir une heure de retard.
Oui.
Elle lui pardonne. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un coup de foudre où finalement les choses ont été arrangées jusqu'au bout.
Écoutez, on est entre les deux. On est évidemment dans un espèce de business plan et pour Monaco et pour Grace qui va enfin se caser, parce qu'à 26 ans, il est temps tout de même à cause de papa et de la bienséance. Et puis, elle en a assez d'Hollywood, comme vous l'avez dit précédemment. Donc,
ouais,
c'est bizarre d'avoir marre d'Hollywood à 26 ans quand on est vraiment une star. Mmh. Mais c'est ce qu'il y a. Donc, pourquoi pas une retraite sous les palmiers? Une retraite précoce sous les palmiers, sous ce ciel azuré qu'elle adore, parce que, à force de tourner, elle a tourné la main au collet avec Hitchcock, elle est tombée amoureuse, raide dingue, de la Côte d'Azur. Elle adore ce climat, ça lui rappelle peut-être un peu Philadelphie,
ouais,
mais en plus, plus ensoleillée.
Mais elle kiffe le prince?
Je crois pas. Si vous me demandez mon avis de biographe, je ne crois pas qu'il y ait de passion chez Grace. Grace, c'était le feu sous la glace, c'était ce que Hitchcock avait très bien identifié.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui avait des pulsions, mais qui les masquait. Et Régnier n'était pas tout à fait son profil, puisqu'on a bien dit que son profil, c'est plutôt Carrie Crone, Carrie Cooper, des types qui ont 20, William Holden, qui ont 20 ans de plus qu'elle.
Mais, et lui, le prince, il tombe sous le charme, alors?
Il tombe sous le charme, mais il sait que ce sera une publicité formidable pour Monaco.
Mais c'est plus du tout du conte de fées, là, Elisabeth Gousselin.
On est dans le marketing.
Ah non, mais là, vous êtes en train de me casser mon rêve. Non, mais il y a quand même eu un truc entre eux.
Mais bien sûr que si, puisque quand même, son petit cœur bat de 26 ans, on est quand même encore un peu naïf à 26 ans, elle est au Carlton, dans ce palace, et on lui dit, tu vas rencontrer à Monaco le prince. Son cœur bat, elle est quand même un peu midinette.
D'accord.
Et donc, on lui met une espèce de robe à taffetas, qui sera d'ailleurs modélisée après pour les poupées Barbie, tellement elle est incroyable, cette robe. Mais le séchoir du Carlton est à faune, on n'arrive plus à lui faire son brushing.
Ouais.
Alors, on lui entortille un espèce de chignon, on lui met une tresse au dernier moment.
Et on l'envoie,
on l'accompagne. Et elle attend devant une cage au lion.
Ouais.
Le prince charmant.
Voilà, parce que le prince avait des zoos. Il avait deux zoos et en fait, il l'a séduite en lui faisant faire une balade dans son zoo.
Mais oui.
Voilà.
Mais
donc,
oui,
il a quand même fini par la séduire.
Oui, bien sûr. Enfin, est-ce que vous le trouvez expansif, lui?
Je ne sais pas, je ne le connaissais pas, moi, personnellement. Vous savez, parfois, derrière les apparences, il peut y avoir des tempéraments comme ça, de feu, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est fou parce que c'est sur le papier glacé, ça fait complètement rêver.
Conte de fées absolue.
Et quand on va un petit peu plus loin, et c'est le cas de jour J ce soir, on se rend compte que ça n'était pas si simple. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Elisabeth Gousselin. On va voir si, effectivement, à un moment donné, si le cœur des deux amoureux des deux tourtereaux n'a pas explosé. En revanche, j'ai le sentiment que celui des monégasques s'est complètement emballé. A tout de suite sur RTL.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Jour J vous emmène dans les années 50 à Monaco. Monaco qui a une princesse. Elle s'appelle Grace et c'est un voile de délicatesse et de glamour qui se pose sur ce rocher au bord de la Méditerranée. Elisabeth Gousselin, vous êtes notre invitée. Vous venez de briser mon cœur de midinette parce que j'ai vu ces images du mariage, parce que j'ai toujours trouvé d'ailleurs Grace d'une beauté absolument époustouflante.
Elle est
Je pense que c'était vraiment, pour moi, c'était l'une des plus grandes beautés que la Terre ait pu porter. Comment a-t-elle été accueillie par les Monégasques? Est-ce qu'ils sont tombés eux aussi sous le charme de cette jeune femme, jeune star de 25 ans?
Alors, ils sont assez durs, hein, les Monégasques. Moi, quand je suis allée enquêter pour mon livre, c'est un peuple fier et ombrageux, méditerranéen, un peu rugueux comme ça. Donc eux, ils étaient absolument sûrs, dans cet orgueil qui est le leur, que de toute façon, ils auraient rayonné, avec ou sans elle.
Ouais.
Ils se rendaient pas vraiment compte.
Mais parce qu'on dit qu'elle a sauvé Monaco.
Mais oui, en drainant des capitaux américains. Ouais. En fait, elle a colonisé toutes les villes alentours, toutes les petites villas, et les plus grands acteurs, parce qu'elle avait quand même une aura hollywoodienne absolument dingue, 26 ans, un Oscar. Même Ava Gardner n'avait pas décroché d'Oscar. Donc, ils accouraient vers elle. Sinatra, son meilleur pote, David Niven, l'élégantissime. Cary Grant venait avec son petit bébé, sa nouvelle femme. Enfin, ça apportait un glamour et une touche de classe absolument dingue à ce petit état, ce petit timbre-poste. Et soudain, Monaco est devenu aussi glamour que Las Vegas.
Mais les monégasques s'en défendent aussi. C'est-à-dire, avec ou sans grâce de Monaco, on aurait pu de toute façon briller de la même façon dans le monde entier.
C'est leur amour propre.
Voilà. Néanmoins, c'est quand même la première fois qu'un prince épouse une star.
Absolument.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu battle de notoriété ?
Oui, il y a battle de notoriété, mais elle s'efface. On n'est pas encore dans le féminisme, là. On est encore dans vraiment le machisme triomphant. Donc elle s'efface. Elle s'efface, elle apprend ce que vous disiez. Elle apprend le protocole, l'étiquette, ça lui va comme un gant. Elle adore apprendre. Grace ouais. est faite pour apprendre. Elle apprend le français également, parce que quand elle débarque, elle ne sait pas du tout ce que c'est que la France. Enfin, elle est allée au Festival de Cannes, elle a tourné la main au collet avec Hitchcock, mais à part ça, elle ne parle pas français, donc elle a un professeur attitré au palais, et elle découvre les 200 pièces humides, pauvre petite chérie, de ce palais. Ouais. Bon, j'ironise, parce que c'est formidable d'avoir un palais, mais quand on est triste dans un palais, je crois que Perrault et Grimm avaient raison dans leur conte de fées. Quand on est une triste princesse, on est une triste princesse.
Mais donc, elle a été une triste princesse ?
C'est mon avis. Je pense qu'elle a fait un mauvais calcul. Il y a deux grâces, il y a une schizophrénie. Il y a Grace de Monaco, c'est ce qu'elle devient, et puis il y avait Grace Kelly, connue dans le monde entier, faisant les unes du monde entier. Elle s'est trompée de destin, elle a confondu, elle a pensé que Hollywood était une prison, et la vraie prison, c'est Monaco, ouais. Flavie.
Elle a, donc, à vous écouter aussi, elle s'est enfermée donc, dans un rôle qui lui a fermé les portes de sa vie d'avant. C'est-à-dire que le seul rôle qu'elle avait le droit de tenir en arrivant à Monaco, c'est celui de princesse. Elle devait abandonner sa carrière.
Ça se ressemble beaucoup, vous avez raison. Finalement, à chaque fois, il s'agit de tenir un rôle, il s'agit de jouer. Ouais. Donc, après avoir joué toutes sortes de rôles, et notamment avoir brillé chez Hitchcock, dans des rôles de victimes, assez souvent de femmes fatales, mais victimes, la voici droite, rigidifiée, dans un corset.
Elle n'a plus le droit de tourner.
Non, Hitchcock vient lui supplier de tourner ce film génial, Pas de printemps pour Marnie, que finalement Tippi Hedren prendra. Et il y a un espèce de symposium, il vient avec sa femme Alma, il vient voir Régnier. C'est un conseil d'État, c'est une affaire presque politique. Et il lui dit, voilà, Marnie, c'est formidable, c'est le moment pour elle. Ouais. Elle vous a épousé, soit, c'est la dernière chose que je vous demande, qu'elle tourne Marnie. Sauf que le scénario de Marnie est une horreur. Elle est nymphomane, kleptomane.
Bon, rien d'une princesse, quoi.
Ouais. Et donc, pour son arrivée à Monaco, c'est absolument effrayant. Les monégasques n'ont pas du tout envie que leur princesse se retrouve dans ce genre de film.
Et là,
Régnier
dit non.
Et là, il dit non. Il dit non à Hitchcock.
Et qu'est-ce qu'elle dit, alors, à ce moment-là, selon vous ?
Elle est si mignonne, elle est si douce, elle est si docile. Elle dit, mon cher Hitchcock... Elle écrit une lettre à son cher Hitchcock. Et elle lui dit, mon cher Hitchcock... C'est terrible, ça m'a arraché le cœur. Et lui répond, chère Gracie, après tout, ce n'est qu'un film.
Ouais, ce n'est qu'un film. Je voudrais que l'on écoute certains de ses propos sur ses origines américaines. Hein, parce que à partir du moment où elle a été à Monaco, on est d'accord qu'elle ne retournait pas aux États-Unis.
Non.
Voilà, on en reparle juste après.
À bien des égards, je me sens européenne. Mais mon éducation est américaine. Et je suis toujours très américaine.
Est-ce qu'elle a regretté ? Est-ce que les États-Unis lui ont manqué ? Même si elle s'est attachée évidemment à Monaco, à ses sujets, puisqu'elle est devenue princesse, est-ce qu'elle a eu la nostalgie de sa vie américaine ?
Bien sûr, Flavie, elle a eu la nostalgie et du cinéma alors qu'elle pensait en être complètement vaccinée. Ça lui manquait, l'adrénaline du jeu. Et bien sûr, ben, tous ses copains, elle avait l'impression de quitter un monde venimeux, mais en fait, elle avait aussi des tas de copains. Ava Gardner, c'était sa meilleure copine. Mmh. Ça lui manquait. Alors, elle faisait venir les gens au palais. Ava avait sa chambre, son étage réservé au palais de Monaco. Elle arrivait avec ses valises Vuitton et des Dom Pérignon à la pelle.
Oui, donc elle buvait quand même un petit coup avec ses copines. Elle avait quand même une vie.
Oui, bien sûr. Mais enfin, le protocole, vous savez bien ce que c'est. C'est ce qui fait que Meghan s'est échappée de Buckingham. Pour une actrice, finalement, c'est effrayant. Même une actrice très disciplinée, le protocole est très contraignant.
On se retrouve dans un instant. Non seulement c'est contraignant, mais c'est parfois extrêmement violent. On va revenir sur cette vie publique qui était très difficile à vivre pour elle. On l'écoutera dans un instant. A tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Bienvenue dans Jour J, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Grace Kelly a donc conquis le cœur des Monégasques en même temps que celui de Rainier. Enfin bon, on aime à le croire, mais la vie de princesse a un coût, celui d'une notoriété glamour qui attire les journalistes et les paparazzi du monde entier, non pas pour le talent de Grace Kelly, mais pour sa vie privée. Elisabeth Gousseland, quelle relation le couple princier, alors là je vous parle bien du couple, hein, entretenait-il avec la presse ?
Alors, en fait, c'était un deal. Hein. Ils avaient très très envie que Paris Match était l'organe de presse privilégié.
Et puis c'était quand même un peu l'entremetteur. Hein. C'est grâce à Paris Match qu'ils s'étaient rencontrés.
Absolument.
Donc il leur devait beaucoup.
Absolument. Il y a un deal, c'est-à-dire on a le droit de venir. Il y a une exclusivité Paris Match, en fait. Il y a une exclue Paris Match sur la vie au château, au palais de Monaco. Bien sûr qu'ils ne montrent du coup que ce qu'ils veulent montrer.
Voilà, c'est ça. Donc c'est ça le deal en fait, hein.
Oui.
C'est-à-dire vous venez, mais en revanche, on va maîtriser complètement notre communication.
Absolument.
D'accord.
Et ils avaient d'ailleurs des chargés de communication américains, Rupert Allen, qu'elle avait gardé de ses années hollywoodiennes, et qui était un fameux attaché de presse absolument pour tout, et pour Monaco et pour elle.
Voilà, donc ce qui à un moment donné a fait briller Monaco au-delà du couple princier, Monaco dans le monde entier. C'était la présence aussi de Grace. Alors maintenant, si effectivement Rainier et Grace étaient en accord avec la presse et trouver des exclusivités. Est-ce que Grace le vivait bien ou est-ce qu'elle a dû se plier finalement à tout ça, elle qui aspirait tant, on l'entendait tout à l'heure, à la tranquillité?
Oui, elle n'a pas tellement aimé, non, les paparazzi, elle les a chassés, mais elle avait le pouvoir de les chasser une fois qu'elle était au palais. Elle avait sa Rolls, son chauffeur, Monaco est sous télésurveillance, vidéosurveillance, elle vivait sous vidéosurveillance. Il y a eu très très peu d'intrusions de paparazzi. Avant qu'elle ne soit maman, hein, on est d'accord.
Ouais,
hein.
Ouais, d'accord.
C'est après que ça bascule.
Oui.
Mais pendant les quelques années où elle est juste princesse et qu'elle s'établit là-bas, il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de couac.
Alors, c'est quand elle a eu ses enfants que là, ça a commencé à devenir compliqué ?
Oui, bien sûr. Parce qu'au fond, elle nous a fait rêver. Ils nous ont fait rêver. Mmh. Mais c'est elle qui apporte tout. Le rayonnement, les Américains, les capitaux. Qui, franchement, c'est elle qui fait de Monaco ce que Monaco est toujours aujourd'hui. Et puis la naissance de Caroline est un événement mondial. Mmh. Elle apparaît en bébé froufroutant à la une de Life. Mmh. Elle s'appelle Caroline. L'actualité s'interrompt le jour où Caroline apparaît à la une de Life. Et ce qui est très drôle, c'est que 5 mois plus tard, une autre Caroline va surgir. Et celle-là, ce sera la fille des Kennedy. Mmh. Donc il y a eu aussi une rivalité entre Jackie et...
Ah ouais.
Ah oui.
Donc il y avait la course au scoop, quoi.
Absolument. Et puis, c'était des first ladies, toutes les deux. Elles étaient en rivalité. Il faut savoir que John Fitzgerald Kennedy, lorsqu'il avait 17-18 ans, avait rencontré Grace au cours d'une croisière, parce que le père Kennedy Joe et le père Kelly étaient assez copains, étaient le même genre d'individu de plein pouvoir, de poigne. Et il y avait eu une petite amourette adolescente
que les papas voyaient d'un très bon œil, j'imagine.
Bien sûr, et là ça ne s'est pas fait parce que John était quelqu'un qui cavalait beaucoup et puis leurs destins se sont ont divergé. Mais enfin, je pense qu'elle le savait, elle, Jackie Kennedy. Ouais. Et elle avait une espèce de jalousie intrinsèque envers Grace.
Envers Grace Kelly. Alors, on va revenir sur ses propos, si vous le voulez bien, sur la presse. Car vous l'avez dit, la bascule, c'est quand elle est devenue maman. Donc, elle a eu Caroline, elle a eu Albert et ensuite Stéphanie de Monaco. Voici ce qu'elle déclarait en 82 au sujet de sa vie publique.
Même si à Hollywood, ma vie privée m'appartenait, lorsque je me suis mariée, ma vie privée est devenue publique. Et je n'ai plus eu aucune vie privée du tout. J'ai dû m'adapter.
Et puis être connue, être une princesse, être dans la lumière, c'est attirer les objectifs, c'est attirer également les rumeurs. Il faut avoir du cran pour le subir. On l'écoute.
Vous savez, si vous écoutez certaines rumeurs, j'aurais eu 52 bébés à l'heure qu'il est. Pendant plusieurs années, j'étais enceinte, selon la presse. Ou alors mon mari et moi étions systématiquement en instance de divorce, ce qui n'est pas non plus le cas. Mais Stéphanie s'est cachée pendant 2 ans dans le coffre de la voiture pour aller à la gymnastique, juste pour éviter qu'il ne la suive et ne la voie.
Alors, on note deux choses. Les princesses ont des gestations très courtes, hein, parce qu'elles pouvaient avoir déjà 52 bébés. Donc, effectivement, c'est la différence entre une femme normale et une princesse. Et puis, voilà, elle nous explique là, concrètement aussi, la difficulté du quotidien de ses enfants. Et voilà, une petite princesse comme Stéphanie qui va en cours de sport cachée dans le coffre de la voiture, c'est terrible.
Oui,
c'est super dur à vivre, quoi.
Oui, c'est dur à vivre, bien sûr. Donc, il faut une organisation. Il y avait des préceptrices que j'ai rencontrées et elles me racontaient toutes les histoires insensées qui étaient arrivées aux enfants Grimaldi. Alors, Stéphanie, cachée, comme le dit Grace, mais également Caroline. Lorsqu'elle venait à Paris, ils avaient un hôtel particulier, je crois, avenue Foch. Et lorsqu'ils ne pouvaient pas faire des courses, évidemment. À Paris, Grace était mitraillée par Grace Kelly et Caroline, qui devenait jolie et intéressante, mitraillée par les paparazzi.
Parce que manque de bol, ils sont tous beaux en plus, hein, là-dedans.
Oui, alors c'est ça qui fait rêver. Et c'est ça qui est assez fort. Bien sûr. Que cette histoire perdure. Ils sont toujours beaux. Charlotte est tout aussi belle que Caroline. Et donc, ça n'en finit plus. Mais nous devons tout ça à Grace. Non pas à Rainier, mais à Grace Kelly, bien sûr. Et donc, pareil, hein, Caroline, elle était planquée dans la voiture, à l'arrière, avec sa gouvernante, parce qu'elle voyait, dès qu'ils sortaient de chez eux à Paris, les paparazzi apparaître.
Quel traumatisme. À propos de traumatisme, on va se retrouver dans un instant, car évidemment, personne n'imaginait la mort de Grace Kelly. On y revient dans un instant dans Jour J sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand.
La mort de la princesse Grace de Monaco, sa plus jeune fille, n'a pas encore été informée. Stéphanie est atteinte aux vertèbres cervicales.
C'est le 14 septembre 1982 que l'on apprend la mort de la princesse Grace dans un tragique accident de voiture sur la départementale 37, la même où elle avait tourné La main au collet en 1954. Elle avait alors 52 ans. Stéphanie, sa fille, en avait 17. Elisabeth Gousseland, Monaco, ce jour-là, je dirais, est foudroyée par le drame.
Foudroyée, je crois que la planète entière, quand les bulletins apparaissent.
C'est comme les Didi, quoi. Il y a quelque chose de...
C'est absolument comparable. C'est-à-dire, tout le monde est foudroyé. C'est peut-être encore plus fort que les Didi, parce que c'est la première princesse foudroyée, justement, ouais. Grace. Et qu'elle était appelée la princesse des cœurs. Hein. C'était elle qui avait inauguré tout ce qui était charité, œuvre de bienfaisance, etc. Donc elle était vraiment respectée, vraiment aimée. Sa carrière cinématographique un peu sulfureuse était derrière elle. Et puis, il y a ce tragique accident qui est d'autant plus troublant que c'est la réplique, comme vous l'avez dit, de La main au collet. Mmh. C'est la scène où elle est avec Cary Grant, mais très heureuse, et où elle fait ses virages de la turbie en partant tout là-haut de leur domaine de Rocagel. Elle fait des virages. Moi, j'ai refait cette route pour voir à quel point elle était dangereuse. Elle est vertigineuse, cette route. Mmh. Et bien entendu que là, toutes les rumeurs, la pauvre, post-mortem, vont affluer.
C'est ça.
Et elles sont toutes fausses.
C'est-à-dire... C'est atroce, hein, quand même. Hein, parce que, bon, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas entendu parler de cette histoire, on a la rumeur accourue que c'était la jeune Stéphanie, 17 ans, qui était au volant de la voiture.
C'est juste impossible. Sa mère avait tout préparé.
Puis c'est inhumain, surtout.
Les rumeurs sont atroces, mais ça, on le sait. Mais c'est surtout juste pas possible. Ils sont partis de leur propriété de Rocagel tout en haut. Elle devait aller faire un stage chez Dior, Stéphanie. Elle était engagée chez Marc Bohan pour devenir stagiaire chez Dior. Et sa mère tenait beaucoup à ce qu'elle fasse ça, parce que Stéphanie, un peu comme Caroline, était délurée. Il fallait un petit peu caser les enfants. Il n'y a qu'Albert qui filait droit. Et simplement, on peut se demander pourquoi il n'y avait pas de chauffeur. Elle avait pris la Land Rover qu'elle prend toujours. Grace aime conduire. Bon, on peut se dire qu'il n'y avait pas de chauffeur parce qu'elles sont parties à 8h du matin, tout simplement. Et qu'il y avait des vêtements à l'arrière, hein, puisqu'on allait la conduire au palais. On allait conduire d'abord au palais de Monaco, Stéphanie. Et c'est Grace qui démarre. Elle démarre lentement. Alors, est-ce qu'elle rêve? Est-ce qu'elle rêve à La main au collet? Est-ce qu'ils se sont disputés le matin au petit déjeuner? Comment savoir? On peut tout imaginer. Est-ce qu'il y avait de la tension dans l'air? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que oui, elles avaient leur ceinture. Oui, Grace était à la place conducteur. Et la pauvre Stéphanie a eu les vertèbres fracassées par ce choc. 40 secondes en enfer. La voiture fait un tonneau à l'un des virages que je connais très bien, qu'on connaît tous. Et elle tombe pendant 40 secondes dans le garage du voisin, sur le terrain du voisin. 40 secondes en enfer. Et là, le voisin accourt et on ouvre les portières. Et Stéphanie dit... Sauvez maman, sauvez maman! Elle hurle, la petite, alors qu'elle a le cou fracassé. Ils tentent d'extraire Grace. Elle est encore vivante. Et à mon avis, en ayant refait le parcours, je pense que si les secours étaient arrivés plus vite, et surtout s'ils n'avaient pas conduit Grace dans une clinique à Monaco, mais bien dans une clinique beaucoup plus perfectionnée à Nice, peut-être que cet AVC, il l'aurait guéri. Parce qu'elle a eu un AVC, en fait.
Elle a eu un AVC, et c'est à l'AVC qu'elle a succombé, en fait, après.
Oui, c'est parce qu'on n'a pas assez vite agi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça qui s'est passé.
Elisabeth Gousselin, ce jour-là, Monaco s'est drapée de deuil, de chagrin, et cette mort, a posteriori, elle participe de la légende, finalement, du rocher monégasque.
Elle participe absolument de la légende, elle y ajoute un voile de mystère, un voile de tragédie, bien entendu, et en même temps, bien sûr que ceux qui l'aimaient vraiment, parce qu'il y avait des monégasques qui l'adoraient, hein, il y en avait des réticents, mais il y avait toutes ces dames de compagnie, ces vieilles dames avec qui elle faisait des concours de fleurs, les épouses de ministres, enfin, elle était devenue une très jolie dame rangée en costume Dior, Grace, et bien sûr que tout le monde la pleure, et tout le monde s'interroge, parce que cette mort pose problème au sommet de sa splendeur, et de son bonheur apparent, puisqu'il y avait ses trois enfants qui allaient très bien, et qui étaient formidables, et ce couple qui tenait bon an mal an.
Ça fait plonger cette famille aussi dans une notion de saga.
Dans une notion de saga, de dynastie, et qui perdure aujourd'hui.
Ouais. Donc, avec Grace, des drames, avec des grands bonheurs.
Comme des répétitions, parce que si on croit à la psychanalyse, on croit aux répétitions.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Elisabeth Gousselin. Merci à vous. Je rappelle votre livre « Grâce de Monaco, la glace et le feu » aux éditions Grasset. J'essaierai d'oublier certaines choses que vous m'avez dites ce soir pour continuer à rêver. Et on peut toujours rêver. Et j'aurai plaisir à vous recevoir, j'espère, en janvier, puisque vous préparez une biographie des princesses d'Angleterre. Et c'est un peu mon dada aussi. Merci à vous.